Priorité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Priorité Santé s'intéresse aujourd'hui à ce qui est entrepris au Mali pour lutter contre l'excision. Le Mali est l'un des pays où cette pratique est la plus répandue. Selon une enquête nationale, 85% des femmes de 15 à 49 ans et 84% des filles de 0 à 14 ans sont excisées. Un chiffre d'ailleurs qui atteint même les 98% dans certaines régions. L'excision, je le rappelle, c'est l'ablation du clitoris, parfois des petites lèvres, voire même des grandes lèvres. Cette violence à l'égard des femmes a des conséquences physiques et psychique grave. David Bachier, notre correspondant à Bamako, est allé rencontrer des femmes victimes d'excision, une exciseuse traditionnelle repentie et des professionnels qui luttent contre cette pratique. David Bachier, bonjour.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Ces rencontres, vous les avez faites grâce à une association qui s'appelle Sini Sanouman.
Oui, Sini Sanouman, c'est du Bambara. On peut traduire ça par « un lendemain meilleur ». C'est une association très active dans la lutte contre l'excision au Mali. Donc, j'ai contacté son président qui m'a donné rendez-vous dans l'une des antennes de l'association qui se trouve à Bamako, plus précisément dans le quartier de Djenibougou. C'est un quartier populaire de la capitale. Et cette antenne se trouve au fond d'une cour d'école, derrière les salles de classe. Un endroit assez agréable, ombragé, on entend les enfants qui jouent. C'est là que le psychologue de l'association, qu'on va entendre également, a installé son bureau, un petit local fabriqué avec des tôles et dans lequel il doit d'ailleurs commencer à faire très chaud, la saison sèche est arrivée. Et donc c'est là, devant le bureau, au fond de la cour, que j'ai réalisé mes entretiens.
Cette association fait de la prévention, de la sensibilisation. La plus grosse partie de son travail consiste à aller dans les écoles, dans les communautés, rencontrer les associations de jeunes, de femmes, les familles, bref, le plus de gens possible pour essayer de les convaincre d'arrêter de pratiquer l'excision. Et le premier argument, on s'en doute, ce sont les problèmes de santé que provoque cette pratique de l'excision. Chez les femmes adultes, il y a les fistules, les problèmes d'incontinence et il y a aussi toutes les complications qui suivent directement l'acte d'ablation, cette mutilation qui n'est jamais réalisée dans de bonnes conditions d'hygiène. La plupart du temps, l'excision se pratique sur les petites filles lorsqu'elles ne sont encore que des bébés dans les premiers mois ou dans les toutes premières années qui suivent la naissance. L'histoire d'Aïssata Traoré est tout autre, puisqu'en fait, c'est elle qui a décidé de subir l'excision par amour.
Comme nous, on était au nord là-bas, dans le nord du Mali, on habitait un petit village là où on n'accepte pas d'exciser les filles. Mais pendant le conflit au nord, on est venu ici. Quand on est venu, bon, j'ai connu un garçon. Lui, il était Bambara. Il a voulu qu'on se marie. Bon, moi aussi, je l'aimais. Il a voulu qu'on se marie. J'étais d'accord. Mais quand il a su que j'étais non excisée, il a demandé à ce que je le sois. Bon, c'est comme ça que j'ai été excisée.
Ça signifie que vous avez été excisée, là, il y a moins de 2 ans?
Oui, en 2013. Après être excisée, j'ai eu des complications. Parce qu'au moment de la cicatrisation, le vagin s'est fermé complètement.
Vous allez m'expliquer ça, mais d'abord, vous avez donc été excisée à l'âge de 15 ans?
Oui, à l'âge de 15 ans.
Vous vous en souvenez, forcément?
Oui, si, je m'en souviens. Bon, quand il a demandé à ce que je sois excisée d'abord, avant le mariage, oui, bon, j'ai accepté. Parce que quand on aime, avec un peu tout, oui, j'ai accepté. On est parti chez une fille, on a fait ça.
Ça vous faisait peur sur le moment?
Si, ça me faisait peur. Ça me faisait peur d'être excisée à cet âge-là. Ça me faisait énormément peur.
Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé le moment où vous êtes arrivée chez l'exciseuse?
Bon, tôt le matin, ma maman m'a réveillée. On est parti chez la vieille. Elle nous a accueillis. Après ça, elle s'est préparée. Elle m'a amené dans les toilettes. Comme ça, on a fait la pratique. J'ai tout vu, vraiment. Parce que, en un mot, quand même, j'étais conscient quand elle le faisait.
Je vous demande pardon. Est-ce que vous pouvez me décrire comment ça s'est passé?
Bon, elle avait un couteau. Il y avait 2 personnes qui tenaient ma main, d'autres personnes qui tenaient mes pieds. Comme ça, elle pouvait faire ça sans que je la dérange avec mes coups de poing. Voilà.
Parce que vous vous débattiez à cause de la douleur, j'imagine.
Si, je me débattais. Quand même, ça s'est passé très vite aussi. Même si la douleur était immense, ça s'est passé très vite. Quand elle a fini, elle a amené une sorte de produit. Elle a utilisé ça. Après, on m'a donné une paille noire.
Un panneau noir?
Ouais, ça permettait de ne pas voir le sang. Voilà. En peu de temps seulement, moi et ma maman, on est rentrés à la maison.
Vous êtes rentrés, comment ça s'est passé le retour à la maison?
Bon, je me suis assis, on m'a donné à manger. Quand une fille est excisée, on la donne de la viande pour qu'elle mange. On m'a donné ça. Bon, après quelques jours, ça va.
Votre maman, au moment où vous étiez venue pour lui annoncer que vous vouliez vous faire exciser par amour pour pouvoir vous marier, elle a essayé de vous dissuader. Elle vous a dit c'est bien, il faut le faire.
Non, elle ne m'a pas dit que c'est bien. Elle m'a dissuadé de ne pas le faire, mais après qu'elle voyait que je tenais bien à ça et je tenais aussi à me marier avec le garçon, elle a accepté. Mon père aussi a accepté facilement. Il ne s'est pas empêché parce que ça venait de moi.
Et aujourd'hui, vous regrettez?
Si, je regrette vraiment parce que le garçon même qui s'est imposé pour que je fasse cela, lui-même après, je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est désengagé.
Pour vous, vous disiez que ça avait posé des problèmes aussi de santé?
Oui, ça avait causé des problèmes de santé parce que le vagin était collé complètement. Je n'arrivais même pas à uriner.
Le sang qui avait séché avait refermé entièrement votre vagin. C'est ça, c'est le sang coagulé.
Oui, ça a enfermé ça complètement. Bon, c'est à ce moment aussi que nous et ma tante Esther, qui travaille pour l'ONG Sinisanouma, on s'est connus. Elle a commencé à contacter ses supérieurs. On a fait l'opération. Quand même, tout s'est bien passé.
Ça veut dire que vous avez pu aller vous faire soigner dans un centre de santé ici à Bamako?
Oui, on m'a soigné. Bon, quand même, tous les problèmes, quand même, j'arrive à uriner normalement, je n'ai plus de problèmes aussi.
Combien de temps est-ce que ça a duré et quel type d'opération il a fallu vous faire pour que vous puissiez aller mieux?
Bon, on a seulement essayé d'ouvrir le vagin. On a ouvert le vagin, c'est ce type d'opération qu'on a fait. Après aussi, on a fait les traitements.
Ça a duré combien de temps avant que vous soyez prise en charge?
Avant que je sois prise en charge, je peux dire ça a pris quand même plusieurs mois.
Et aujourd'hui, vous n'avez plus aucun problème, plus aucune séquelle?
Non, je n'ai plus de problème, je n'ai plus de séquelles. Vraiment, ça va.
Est-ce que moralement, psychologiquement, c'est quelque chose à quoi vous repensez de temps en temps?
Si, je repense à ça, parce que exciser à l'âge de 15 ans quand même, on peut pas oublier ce genre d'action, on peut pas oublier, ça restera jamais gravé dans la mémoire.
Quand vous y repensez, qu'est-ce que vous vous dites?
Bon, je sais pas trop quand même, même en parlant, c'est difficile de parler, mais... Quand même, je ne veux plus pratiquer ça, même mes enfants, quand j'aurai des enfants. Si c'est une fille quand même, je ne vais jamais l'exciser.
Ça vous arrive d'en discuter avec vos amis?
Oui, de temps on parle de ça, le sujet arrivant. On se débat là-dessus. Quand même, moi, je ne veux plus voir une femme excisée. Il faut que ça cesse.
Comme la plupart des Maliennes, j'imagine que vos amies sont excisées, elles aussi?
Oui, j'ai des amies qui sont excisées.
Et qu'est-ce qu'elles pensent de l'excision, elles? Est-ce que vous en débattez entre vous? Vous, vous êtes contre, elles sont pour? Ou est-ce que vous êtes toutes d'accord?
Bon, des fois, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Parce que quand on est trop petite pour s'en rappeler, on ne voit pas la difficulté que ça peut rapporter, la douleur que ça... La personne traverse au moment du fait.
Aujourd'hui, vous avez un nouveau petit copain?
Oui, j'ai un nouveau petit copain. Il accepte ma situation quand même.
Vous lui en avez parlé de ça?
Oui, je l'en ai parlé une fois. Bon, lui-même, il est contre ça. Il me soutient.
tout se passe bien avec lui. Cette excision que vous avez subie, ça ne vous gêne pas dans vos relations, lui et vous?
Non, quand même, rien que ça ne me gêne pas. Ça ne le gêne pas aussi. Tout se passe normalement, tout est bien entre nous.
Priorité santé, reportage.
Aujourd'hui dans Priorité santé sur RFI, nous parlons de la lutte contre l'excision au Mali avec un reportage de David Baché. David, Aïssata explique au début de son témoignage qu'elle n'a pas été excisée lorsqu'elle était enfant parce qu'elle vient du nord du Mali. Ça veut dire que tout le pays n'est pas égal devant l'excision?
Non, vous savez, l'excision est une pratique coutumière, donc restreinte à certaines communautés, même si elles sont nombreuses, et donc localisées géographiquement. De fait, on n'excise pas les filles partout dans le monde. C'est lié à certaines traditions multiséculaires. Et dans le nord du Mali, eh bien, effectivement, on pratique très peu l'excision. Les communautés Sanraï, Arabes ou Tamashek, Touareg, qui vivent dans le nord, ne la pratiquent pas ou ne la pratiquent plus. Selon les cercles, selon les villages, ça peut quand même arriver. Par exemple, à Gundam ou à Niafunke, ce sont deux localités de la région de Tombouctou, mais c'est vraiment très réduit comparé au sud du Mali, où là, la pratique est largement généralisée.
Et il y a un autre élément sur lequel je souhaiterais revenir, hein, c'est lorsque vous demandez à Aïssata Traoré si son excision récente la gêne dans sa relation avec son nouveau petit ami. Elle vous répond que tout se passe très bien entre eux, tant mieux d'ailleurs ainsi c'est le cas, mais il faut quand même souligner le fait que couper le clitoris d'une femme, c'est aussi la priver d'une immense partie de son plaisir sexuel. L'excision est aussi un frein pour l'épanouissement sexuel des femmes et donc du couple.
Bien sûr, et d'ailleurs, même si je n'ai pas posé la question de façon plus claire, plus directe à Aïssata Traoré, j'avoue qu'après tout ce qu'elle venait déjà de me raconter, je n'ai pas osé. Eh bien, j'ai pu aborder le sujet avec une autre femme excisée. Elle s'appelle Mariam Sek. Elle est animatrice de l'ONG Simis Anouman. En fait, je m'apprêtais à lui poser des questions sur son activité au sein de l'association, sur les campagnes de prévention, et j'ai tout naturellement commencé par lui demander les raisons qui l'avaient conduite à s'engager pour cette cause.
Moi-même, j'avais des problèmes avec mon mariage. Un mois après le mariage, je suis allée dire à mes parents que vraiment je ne peux pas supporter parce que j'avais des douleurs. Je dis à ma soeur, est-ce que c'est ça un mariage? Mais je ne savais pas que c'était ça un mariage. Elle dit, mais pourquoi? Je dis non, ce que le gars me fait vraiment, ça me fait mal. Elle dit non, le mariage c'est le plus beau. Elle a tout dit. J'ai dit, mais vraiment, je ne vois rien de beau dans tout ça. Et j'ai décidé de me divorcer. Elle dit que jamais je ne le ferai pas. Je suis restée comme ça, je suis restée, j'ai fait plus de... Ça me fait 17 ans de mariage maintenant. Et mais c'est en 2010, ça me fait peut-être 4 à 5 ans maintenant que peut-être que j'ai eu des sensations, peut-être. Sinon, je ne l'avais jamais eu.
Et vous avez compris que c'était lié à l'excision?
Oui, 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 parce que, bon, je suis socio-anthropologue, je fais mes études ici à Bamako. Depuis l'université, j'ai fait des enquêtes sur les violences faites aux femmes. C'est partant de là vraiment que j'ai compris beaucoup de choses. Sinon, les parents, les causeries, en ce temps, ce n'était pas vraiment facile de faire ces causeries avec les mamans. Ce n'était pas du tout facile, surtout ici en Afrique.
Et aujourd'hui, vous avez compris que ce n'était pas lié à votre mariage qui se passait mal, mais que c'était le fait que vous ayez excisé qui vous posait problème?
Oui, oui, oui. C'est aujourd'hui quand même, pas aujourd'hui, je l'ai connu. Je l'ai connu depuis quelques temps après mon mariage parce que c'est quand j'ai eu mon bac que j'ai fait mon mariage et à l'université, j'ai déjà commencé à faire des recherches sur l'excision. Et c'est là que j'ai connu qu'il y a vraiment l'excision n'est pas du tout bonne.
C'est rare que l'on entende ce genre de témoignage, or c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. L'excision peut être un handicap pour les relations sexuelles.
Oui, et je dirais même que c'est le principe. L'excision a clairement pour but de contrôler l'appétit sexuel des femmes. Le désir sexuel féminin est souvent perçu comme quelque chose qui fait peur, voire comme quelque chose de maléfique dans certaines croyances traditionnelles. Et c'est de là que vient cette pratique qui s'est ensuite banalisée.
David, hein, au début de sa réponse, Mariam Sek vous dit qu'il y a plusieurs raisons qui l'ont poussé à s'investir dans la lutte contre l'excision. On vient d'entendre la première. Elle nous explique les autres raisons de son engagement contre l'excision.
En 1998, lorsque j'étais à l'université, j'ai eu ma première fille. Et c'est la tante qui avait décidé de faire exciser la fille. On l'a fait exciser à l'âge de 6 mois. La volonté de sa tante, la petite sœur de son papa. Donc, je n'avais pas voulu. Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait avec une lame.
Sans que vous soyez au courant?
Non, ils m'ont dit que l'enfant ne m'appartenait pas. Et je ne suis pas venue avec un enfant. L'enfant ne porte pas mon nom. Donc, ils vont amener la faire exciser. Et comme ça, ils l'ont amenée. Moi, je n'étais pas du tout contente. Et quand elle a eu une grave blessure, parce qu'elle était blessée même, jusqu'au pubis, elle a été blessée jusque-là. Vous voyez? Et ils ont tout enlevé. Ils ont tout enlevé, que ce soit les clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres. Ils ont tout enlevé jusqu'à ce qu'elle s'est blessée jusqu'au pubis. Et arrivé maintenant, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit à mon mari, tu vois ce que vous avez fait à ma petite fille, vous voulez la tuer. J'ai pleuré beaucoup. Et il dit que vraiment, il ne savait pas que c'était comme ça. Il ne va jamais le faire avec les autres filles qui vont arriver. Ouais.
Aujourd'hui, comment va votre petite fille?
Aujourd'hui, quand même, elle est là. Elle n'a pas encore contracté de mariage. Elle est pour le moment, elle est encore vierge. Bon, je ne sais pas dans l'avenir ce qu'elle aura. Mais j'ai pris le bon Dieu pour qu'elle n'ait pas de problème quand même.
Elle a quel âge aujourd'hui?
Aujourd'hui, elle a 17 ans.
Vous avez eu d'autres filles depuis?
Oui, j'ai eu une fille après.
Elle est excisée?
Non, non, non. Ça, jamais. Jamais. Jamais.
Mariam Sek, animatrice de l'association Sinis Anouman à Bamako, vient de nous dire pourquoi elle s'est engagée dans la lutte contre l'excision. Elle explique maintenant ce qu'elle fait concrètement pour que cette pratique cesse.
Je suis animatrice et je forme. Que ce soit les leaders communaux, que ce soit les groupements de femmes, les leaders, les groupements de jeunes, dans les centres de santé, dans les écoles. Je fais des séances de sensibilisation à tous ces niveaux. Et je fais aussi des formations dans la commune, que ce soit ici à Bamako, à Kaï. Je fais ces formations sur l'excision.
Au cours de ces formations, vous expliquez les problèmes de santé, j'imagine que ça pose. C'est ça le gros du message?
Oui, oui, c'est ça le gros du message. On explique vraiment le cas santé, mais les gens n'arrivent pas à comprendre ce cas de santé. Ils n'arrivent pas à comprendre cela. Donc on les explique et aussi du côté de la tradition. Parce que les gens se basent généralement sur les religions.
Quel est l'argument qui revient le plus souvent en face pour vous dire que si, il faut pratiquer l'excision?
Quand tu vois le Mali, on est à 92% islam. Donc directement, les gens pensent que c'est la religion musulmane qui demande, qui recommande de faire la pratique. Alors qu'en fait, c'est pas ça, parce que l'idée n'y est pas dans le Coran. L'idée n'est pas là.
Et ça, vous l'expliquez à vos interlocuteurs?
Oui, nous les expliquons, les leaders religieux aussi qui sont là, eux-mêmes, ils avouent que ça n'y est pas du tout dans le Coran.
Les gens, quand vous leur expliquez que ce n'est pas une pratique islamique, ils vous croient?
Oui, oui.
Dès le début?
Non, non, au début, c'est pas du tout facile. Au début, souvent quand tu commences à faire des causeries, ils ne parlent même pas. Au lieu de participer, elles ne participent pas, elles se taisent. Et quand tu dis à quelqu'un de parler, mais pourquoi vous ne voulez pas échanger avec moi? Ils disent que non, ça va, tu es venu pour nous donner des leçons. Donc donne-nous ces leçons et tu peux partir. Nous quand même, nous avons la nôtre.
Et ils pensent par exemple sur cette question de islam ou pas islam pour l'excision, ils pensent que vous mentez?
Oui, et on nous dit que oui. Les blancs vous donnent de l'argent. C'est ce qu'on me dit. Moi-même qui suis là, on dit que, les, oui, vous avez eu beaucoup d'argent des blancs.
Tu es de vos partenaires financiers, oui, qui financent,
oui,
l'ONG.
Oui, c'est ça, c'est ça. Ils disent que c'est à cause des blancs. C'est à cause des blancs, l'argent qu'on vous a donné, vous n'avez pas encore fini de manger. Si vous ne finissez pas de manger, vous êtes obligé de mentir. Ce qui se passe dans leur tête, ils disent que non, le prophète, il n'a pas banni l'excision. Il a recommandé. C'est pas la vérité. Mais pour eux, et l'islam recommande de le faire. Et quand on dit, est-ce que ça est dans le Coran? Il dit que non, ça n'est pas dans le Coran. Ça n'y est pas. Le prophète, paix sur lui, il n'a pas dit d'arrêter la pratique. Donc on va le faire.
On se retrouve dans 3 minutes après les informations, toujours pour parler de la lutte contre l'excision au Mali. Un reportage de David Bachet, le correspondant de RFI à Bamako.
Priorité santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité santé. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre l'excision au Mali avec un reportage de David Bachet. émission, on a entendu le témoignage de femmes excisées qui ont parlé des problèmes de santé auxquels elles sont confrontées. Mariam Sek, animatrice de l'ONG Sinis à Nouman, nous a expliqué que l'excision n'a rien à voir avec l'islam. D'ailleurs, on pratiquait l'excision avant même l'apparition de l'islam. Mais expliquer ne suffit pas. Il faut aussi se battre contre les habitudes, la tradition.
Oui, c'est par exemple aujourd'hui, là où nous sommes, c'est la tradition, les coutumes. Quand tu vas commencer à expliquer, ils vont dire, depuis les temps immémoriaux, c'est pas aujourd'hui qu'on va cesser de faire la pratique tout d'un coup. Vous allez faire pour vous, d'autres personnes vont venir, mais ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter parce que c'est quelque chose qui a débuté depuis fort longtemps et c'est pas aujourd'hui que nous allons l'arrêter brusquement. C'est ce qu'on me dit.
Et quels sont les arguments qui finalement sont le plus audibles pour les gens que vous essayez de convaincre?
Généralement, en cours de séance d'animation, on peut leur dire, est-ce que toutes les traditions sont bonnes à pratiquer? Nous prenons par exemple le cas des cérémonies au moment des mariages d'auparavant. Ils disent qu'il y a beaucoup vraiment qui ont disparu. Par exemple, quand tu vas chez les Sarakolé, le jour du mariage, la mariée, en sortant de chez elle pour aller chez son mari, il y a une louche pour prendre de la sauce là, la louche. On dit galama. Donc maintenant, elle prend ça et elle ferme sa figure avec. Elle marche pas à pas jusqu'au maintenant chez son mari.
En se cachant le visage avec la cuillère.
Avec ça. Et aujourd'hui, on voit que vraiment, ceci ne se fait plus. C'est pas la peine de se cacher la figure pour aller jusque chez son mari. C'est arrêté. Et si ces cas ont disparu, pourquoi pas l'excision?
Et David Maché, si on laisse tomber la cuillère, la louche qui servait à cacher le visage des femmes, on peut peut-être aussi laisser tomber l'excision qui ravage leur partie génitale.
Oui, ce que nous dit Mariam Sek, c'est qu'une tradition n'est pas un commandement ni un dogme. C'est une habitude prise au sein d'une société et que l'on peut donc décider d'abandonner sans trahir ni ses origines, ni sa communauté ou son ethnie. Dans une des antennes de l'ONG Sinis à Nouman, j'ai rencontré Sira Dembélé, une jeune grand-mère de 58 ans, qui est venue avec sa petite fille Fatoumata, qui a eu un problème après avoir été excisée.
C'est lorsqu'elle était bébé qu'elle a été excisée. Après l'excision, il y a un kyste qui est survenu à l'endroit. C'est une forme de boule qui est sortie là où il y a eu la plaie.
Une boule de chair.
Oui, oui. Lorsque le kyste est survenu, ça s'est aplati. Ça s'est aplati et quand elle portait des slips, au final, c'est le bout qui sortait de son slip. Et maintenant, la maman lui a expliqué que sa fille a un problème après avoir fait l'excision.
Et comment est-ce que vous avez pu ensuite arranger ce problème?
Elles ont déjà un groupement de femmes là où elles se réunissent deux fois dans le mois. C'est là maintenant, lors des causeries, elle était avec ses amis aussi, qui les a demandé est-ce qu'elles connaissent les conséquences de l'excision. C'est après maintenant cette séance d'animation qu'elle a expliqué le problème de sa petite fille. Ils sont partis à l'hôpital et cela n'a même pas dépassé deux semaines. Et la prise en charge a été faite.
Allez, à ma 15 jours, opération,
Et alors, cette prise en charge, qu'est-ce qui a été fait? Elle a été opérée aujourd'hui, comment c'est pour elle?
Après l'opération, elle est venue avec la petite fille chez le psychologue. Donc ils sont venus pour la donner des conseils. Il ne faudrait pas qu'elle explique à d'autres camarades de l'école pour qu'elle ne soit pas montrée du doigt par ses amis. Le psychologue les a donné des conseils pour leur donner de la nourriture, surtout des soupes, quelque chose comme de l'eau, du lait par exemple. Et donc la fille, elle a pris ses nourritures et maintenant ça va chez elle.
Fatoumata, c'est votre petite fille qui est assise juste ici. Fatoumata?
Oh.
Tu as entendu la discussion que j'ai eue avec ta grand-mère?
Oh.
Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du petit problème que tu as eu et qui, Dieu merci, est réglé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de ça?
Elle dit qu'elle est guérie, elle est contente.
Tu as compris pourquoi tu avais été malade?
Kourou, un kiss.
Et tu sais pourquoi tu as eu ce kyste?
Oui, elle dit qu'elle ne connaît pas.
D'accord. Initié Konsebe Fatoumata. Aujourd'hui, votre petite fille Fatoumata qui est derrière moi, sur le plan de la santé et des conséquences que ça a eu, elle est totalement guérie?
Oui, elle est à la peau. Faut être à la tourne.
Dit qu'elle est totalement guérie. Elle n'a pas de problème actuellement.
Et est-ce que vous avez parlé avec elle de ce qui lui était arrivé, des raisons qui faisaient qu'elle avait eu ce problème?
Elle dit que peut-être que c'est sa maman qui lui a expliqué, sinon elle, elle ne l'a rien dit.
Pratique de l'excision cesse, il faut que les exciseuses traditionnelles prennent conscience de ce problème et qu'elles décident d'arrêter. C'est le cas de Siba Fané, elle a la cinquantaine et comme son nom l'indique, Fané, elle appartient à la caste des forgerons. Au Mali, c'est traditionnellement de ces familles de forgerons que sont issues les exciseuses, même si aujourd'hui il peut arriver que ce ne soit pas le cas, surtout d'ailleurs en ville. Siba Fané, elle est une forgeronne, fille d'exciseuse, puis exciseuse elle-même, une vraie, une authentique, sauf qu'elle a décidé d'arrêter.
Elle dit qu'elle a fait la pratique de l'excision, ça fait 4 ans.
Pendant 4 années?
Pendant 4 années.
Il y a combien de temps est-ce que vous avez décidé d'arrêter?
Elle dit que c'est sa maman qui faisait la pratique. Et après le décès de sa maman, elle a pris la relève pendant 4 ans et elle a abandonné, ça fait 3 ans maintenant.
Est-ce que, pour commencer, vous pouvez me dire pour quelles raisons et dans quelles conditions est-ce que vous avez décidé d'arrêter la pratique de l'excision?
C'est lors des rencontres des séances d'animation avec l'ONG Sinisanouma et les animatrices Mariam et Ami qu'elle a compris qu'il y a vraiment des conséquences à l'excision. Et pour abandonner la pratique, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Mais elle a suivi beaucoup de séances d'animation. Elle a compris vraiment qu'il y a des conséquences à l'excision et elle a abandonné la pratique.
Est-ce que vous vous rappelez de votre première discussion avec les gens de l'association?
Elle dit que c'est lors des séances de sensibilisation à leur niveau qu'elle a connu l'ONG. Vraiment, pour la première fois, c'était difficile pour elle de comprendre qu'il y avait des méfaits à la pratique de l'excision. Mais le fait que les animatrices partent et viennent à tout moment, c'est au fur et à mesure des séances d'animation maintenant qu'elle a compris qu'il y a vraiment et réellement des conséquences à la pratique de l'excision.
Qu'est-ce que vous vous disiez? Qu'est-ce que vous n'arriviez pas à comprendre à l'époque?
Elle dit qu'auparavant, comme la tradition le voulait, c'était coutume. Elle ne pouvait pas comprendre que d'un coup, on vient dire qu'il y a des méfaits à la pratique de l'excision.
Vous pensiez que c'était des mensonges?
Pour elle, pour un début, elle pensait que c'était du mensonge. Elle est venue vraiment causer simplement avec elle. Elle ne pouvait pas prendre ça au sérieux. Mais c'est à la longue maintenant qu'elle a su vraiment que c'était réel.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de cette pratique de l'excision? Qu'est-ce que vous avez compris? Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'arrêter?
Au cours des séances d'animation, elle a compris vraiment qu'il y a des conséquences à la pratique de l'excision. Et c'est partant de là qu'elle a décidé d'arrêter la pratique.
Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faisiez quand vous étiez exciseuse, quel geste vous faisiez qu'aujourd'hui vous ne voulez plus faire parce que ça fait du mal?
Elle dit qu'au moment qu'elle faisait l'excision, elle savait vraiment que ça fait mal. Elle se mettait à la place des enfants, elle savait vraiment que ça fait mal. Elle le savait.
Mais à l'époque, c'était normal de le faire.
Elle dit qu'auparavant, elle pensait vraiment qu'il fallait le faire. Mais aujourd'hui, elle a su que ce n'est pas ça.
Elle coupait le clitoris chez les filles, les petites filles. Elle dit qu'elle le faisait avec du couteau. Et ce couteau-là, ce sont eux-mêmes qui fabriquaient ce couteau. Ils la maintenaient dans l'eau pendant quelques temps et ensuite ils le mettaient dans une flamme pour la brûler. Et ensuite, maintenant, faire la pratique avec.
Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez plus faire aujourd'hui ?
Elle dit qu'elle, vraiment, elle ne veut plus en faire, elle a arrêté. Et elle sensibilise aussi d'autres personnes pour arrêter la pratique.
Pourquoi ?
Elle ne veut pas encore faire la pratique parce qu'elle a vu vraiment qu'il y a des conséquences. Elle dit qu'au moment de l'accouchement, il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir aussi la survenue des kystes.
Des kystes, des boules de chair qui se forment sur la cicatrice.
Qui se forment sur la cicatrice. Et il peut y avoir aussi un problème d'urine.
D'incontinence.
D'incontinence urinaire aussi.
Aujourd'hui, vous-même, vous ne pratiquez plus l'excision. Est-ce que vous allez voir vos anciennes collègues, pour le dire comme ça, d'autres exciseuses traditionnelles pour essayer de les convaincre, à votre tour, d'arrêter ?
Ses proches qu'elle connaît et qui pratiquent l'excision, elle les a tous sensibilisés pour qu'ils arrêtent la pratique. Et les mamans aussi qui viennent avec leurs petites filles, elle les sensibilise aussi pour qu'ils puissent arrêter la pratique. Et si elle demande, est-ce que tu connais une autre excuseuse, elle dit que non, je ne connais pas d'autres excuseuses parce que tout ce que je connais, je les ai dit d'arrêter. Je les ai informés concernant les conséquences de la pratique.
J'imagine que ça doit être un travail difficile ici au Mali de convaincre les gens d'arrêter de pratiquer l'excision.
Il y a d'autres qui comprennent, mais il y a d'autres qui sont vraiment beaucoup, beaucoup réticents.
Pour quelles raisons est-ce qu'ils sont réticents ?
Elle dit qu'à chacun sa pensée, elle quand même, elle a arrêté.
Priorité Santé, reportage.
Aujourd'hui, dans Priorité Santé sur RFI, nous parlons de la lutte contre l'excision au Mali avec un reportage de David Bachet. David, vous avez également rencontré un praticien que l'on n'a pas forcément l'habitude d'aller voir en Afrique, même si c'est une spécialité qui se développe, puisque vous avez rencontré un psychologue.
Oui, Elhadj Mahamadou Lamine Sila est spécialisée dans les cas de femmes victimes d'excision qui viennent le consulter pour parler de leurs problèmes et pour entendre auprès de lui un autre discours que le strict discours médical, même si les deux approches sont évidemment complémentaires. On l'écoute.
En majeure partie, nos animatrices et animateurs rencontrent des cas compliqués. Les animateurs me réfèrent ces personnes que je prends en charge. C'est des personnes, des fois, qui ont ces problèmes qu'il ne peut pas dévoiler à tout moment.
Il y a les petites filles comme Fatoumata qu'on avait vues, il y a les mamans peut-être aussi, et il y a les femmes qui subissent peut-être même longtemps après les problèmes d'incontinence. C'est ça en gros votre, entre guillemets, votre clientèle ?
C'est ça exactement ce que c'est. Des femmes, des mamans, des filles, et voilà, c'est les cas qu'on rencontre en majeure partie.
Est-ce que vous pourriez me donner un ou deux exemples qui sont les cas les plus fréquents que vous êtes amené à rencontrer?
Oui, parce qu'il y a des cas de kystes qui sont là, qui sont très fréquents, et aussi les fistules. Parce qu'on en a trop, trop ici à Bamako. Par exemple, si vous partez à l'hôpital de Point G, il y a un endroit qui est là uniquement pour les femmes fistulées. C'est des problèmes qu'on rencontre de tout moment.
Et qu'est-ce qu'elles vous disent, ces femmes?
Ces femmes nous disent qu'elles ne savaient pas que ça pouvait causer tel problème. Si elles étaient informées à temps, elles n'auraient pas pratiqué exactement ce qui les a causé la maladie.
Vous êtes psychologue. Quels problèmes elles viennent vous exposer?
Elles viennent me voir parce que des fois, elles sont traumatisées. Parce qu'ayant cette maladie, elles ne savent pas où se vouler. Elles ne savent pas chez qui doit en parler. C'est des problèmes.
Quels sont les mots qu'elles utilisent?
Les mots qu'elles utilisent, c'est on ne sait pas exactement qu'on pouvait avoir ce genre de problème. Si on savait qu'à partir de l'excision, jamais on aurait dû pratiquer cette affaire.
Elles ont mal, elles ont honte, elles complexent. Pourquoi est-ce qu'elles ont besoin d'un psychologue?
Bon, la majeure partie, c'est des stigmatisés. C'est des femmes stigmatisées, des femmes.
Ça veut dire que dans leur entourage, on les montre
dans
du doigt?
Dans leur entourage, bien sûr, parce que c'est des mots qu'ils n'aiment pas entendre. Parce qu'en Afrique, tu sais, il y a des trucs qu'on méfie. Parce que tu es là en famille ou tu es là autour de la société. C'est des personnes qui sont là, qui n'aiment pas du tout entendre parler d'elles. Hein, en ce qui concerne ces cas Paris. Parce qu'en majeure partie, l'excision comme le MGF,
les mutilations génitales.
Mutilations génitales, c'est des trucs complexes ici en Afrique, plus précisément au Mali. Hein, parce qu'il y a un manque d'informations. Donc, moi, je crois que ce qu'on doit faire pour essayer quand même de les réconforter, c'est de plus donner d'informations, de sensibilisation, pour qu'au moins qu'elles soient informées de la teneur exactement de ce qui est là, ce qui les arrive. Alors, nous ne sommes pas médecins, nous sommes là uniquement pour essayer d'atténuer ce qu'elles ont comme problème. Parce que quand tu as des cas pareils, ce qui est la première des choses à faire, c'est de vouloir pouvoir te soulager.
La stigmatisation, ça c'est quelque chose apparemment qui est important que vous voyez chez chacune des femmes qui viennent vous parler. Que leur dit leur entourage?
Leur entourage, sa majeure partie, c'est quoi? Telle personne a été excisée, voilà ce qu'elle a comme problème. Et ça c'est dû au quotidien. Et en l'écoutant, en entendant, ça crée des problèmes en elle. Parce qu'elle se sent mal à l'aise.
Elles sont mal à l'aise parce que elles sont honteuses de ce qui leur arrive. Un problème comme l'incontinence, on imagine que c'est pas facile à vivre au quotidien. Est-ce que c'est ça?
Effectivement, comme vous le dites, c'est ainsi. Parce que les femmes, en ayant ces problèmes, n'aiment pas surtout être exposées. Donc il faudra qu'elles s'expriment à un psychologue, par exemple, qui peut voir exactement quelle est la solution qu'il faut entreprendre.
Et justement, quelles sont ces solutions? Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer, pour qu'elles se sentent mieux?
Bon, c'est pour les faire comprendre que ce n'est pas du tout grave, c'est des trucs qu'on peut arranger, qu'on peut traiter. Et on vous enverra voir un médecin et on les accompagne dans les centres médicaux pour des prises en charge médicales. Il y a beaucoup parmi elles qui subissent même des opérations. Et là, ça va mieux. Beaucoup sont venus me voir pour dire que ça va. Et après les opérations, elles viennent me voir pour dire que ceci là, ça va très bien. Et là, en ce moment, on continue de les soulager jusqu'à avoir exactement comme résultat assez bien.
Leur problème, elles n'en parlent pas à leur mari, par exemple?
Les maris, non, je ne crois pas. La majeure partie, c'est les maris qui dévoilent. Et tu ne peux pas avoir un cas pareil pour dire que le mari n'est pas au courant. Mais des fois, tu es rejeté même par le mari. Et là, ça pose problème. Bon, si tu dois te confier à ton mari et que tu as un problème que le mari ne peut pas accepter en toi, mais je ne vois pas pourquoi tu dois la parler.
Raison pour laquelle il est important qu'elle puisse se tourner vers un psychologue, une aide extérieure.
Exactement, c'est à cause pour le psychologue là, pour essayer de la soutenir, hein, dans un cadre où tu sais que ça peut quand même la réconforter. Elle se sent honteuse, parce que c'est des cas qui sont là, qui n'aiment pas que ça soit dévoilé. Parce que tu n'es pas comme les autres femmes. Tu as un problème que les autres femmes n'ont pas. Donc des cas pareils, ça, on le garde pour soi-même.
Est-ce qu'elles se demandent pourquoi elles ont ça et pas d'autres? Est-ce qu'elles se disent que c'est peut-être leur faute?
Oui, des fois, ça peut sembler comme ça, mais à majeure partie, c'est des cas qu'elles attribuent à la famille.
Donc elles en veulent à leur entourage?
Leur entourage, effectivement, elles en veulent à leur entourage, parce qu'étant enfant, 3 à 4 mois, qu'est-ce que tu en sais? On t'amène, on te fait des gestes pareils. Mais avec l'âge du fil, autant que vous grandissez, vous vous rendez compte que c'est comme ça que ça s'est passé. Et au fil du temps, maintenant, c'est quelque chose qui est là, qui est révoltant. Des fois, elles se sentent très gênées, en pleurant même, parce qu'elles se sentent vraiment honteuses.
Des consultations, des femmes qui viennent vous voir, vous en rencontrez beaucoup chaque semaine?
Oui, je rencontre une dizaine par semaine. Et ça, c'est ce qu'on a, mais ça peut être plus. Parce que c'est des cas qui sont là, hein, très fréquents.
David Bachet, on voit bien tous les efforts qui sont faits par la société civile malienne pour lutter contre l'excision en termes de sensibilisation et de prise en charge. Mais est-ce que c'est une question dont se préoccupent les pouvoirs publics maliens ?
Absolument. L'État malien a mis en place un programme spécifique qui mène également des campagnes contre l'excision. Mais pour autant, c'est une pratique qui reste légale au Mali. L'État malien la tolère, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays voisins. Par exemple, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, où l'excision est interdite. Du coup, la société civile malienne demande qu'une loi soit votée en ce sens. Écoutez le président de l'association Simis Sanouman, il s'appelle Fiaka Traoré.
Simis Sanouman est une ONG qui est leader de 48 ONG et associations nationales qui se sont mis ensemble pour former un groupe qui est appelé groupe partenaire du pacte contre l'excision. Donc ce groupe a un rôle d'information et de plaidoyer. Nous voudrons une loi spécifique contre la pratique de l'excision. Il y a la constitution malienne, il y a beaucoup d'autres textes aussi qui répriment l'excision, mais il n'y a pas de loi spécifique au Mali qui interdit l'excision. La raison pour laquelle notre vocation aujourd'hui, c'est de lutter, c'est de venir aux côtés des décideurs administratifs politiques, à aller vraiment dans un sens qui puisse vraiment réprimander la pratique de l'excision au Mali.
Pourtant, les pouvoirs publics n'encouragent pas l'excision. Il y a des programmes nationaux menés par le Mali pour lutter contre le phénomène.
Oui, après avoir compris que l'excision est un danger pour la femme et pour la fille, l'État malien, il a créé un programme national de lutte contre l'excision. Mais ce programme vient en appui avec les associations, parce que nous partons jusqu'à la base. C'est-à-dire, nous touchons la communauté à la base. Le programme national, c'est un niveau où il gère la coordination.
Ça veut dire que vous travaillez avec ce programme?
Oui, on travaille ensemble, mais nous voudrons partir loin que ça. Parce que nous voudrons aussi pousser ce programme à travers l'État malien pour qu'il diligente vraiment une loi contre l'excision.
Voilà. Aujourd'hui, il y a une forme d'hypocrisie à vouloir lutter contre un phénomène qu'on n'interdit pas.
Voilà, c'est ce que nous voulons dire. Et je ne dirais pas que le gouvernement encourage la pratique de l'excision, mais ça fait très longtemps que le programme a été créé depuis 2002. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que trop, c'est trop. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller dans un sens et dire encore le contraire, et aller dans un autre sens. Nous ne voulons pas comprendre ce sens. L'État peut initier un projet de loi à partir du programme national, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Mais nous allons dans un sens où nous poussons vraiment cette autorité qui est l'État, mais aussi nous partons aussi avec l'Assemblée nationale aussi pour avoir une proposition de loi contre l'excision. Parce que cette loi nous aide beaucoup. Ça ne va pas mettre fin vraiment à la sensibilisation. Tout le monde est unanime qu'il faudra continuer à sensibiliser, mais il faut une loi, parce qu'il y a des gens qui sont contre l'excision, qui veulent vraiment être protégés.
Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cette loi?
D'abord, des sanctions très lourdes, parce que je trouve que c'est une pratique qui est vraiment criminelle, c'est très dangereuse à la vie. Il faut être victime pour comprendre que c'est une grave pratique.
Donc, des sanctions contre les gens qui pratiquent?
Des sanctions contre des gens qui pratiquent et contre des gens qui encouragent même, c'est-à-dire des pratiquants et aussi leurs complices. Moi, je veux une loi formelle qui interdit de façon rigoureuse la pratique de l'excision.
Là, pour le moment, il y a des gens qui viennent même des pays voisins pour faire l'excision au Mali?
Bien sûr, j'ai le témoin. Il y a des gens qui quittent en Guinée, il y a des gens qui quittent le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Ils viennent exciser leurs enfants, juste à Bamako ici.
On vient d'entendre le président de l'association Simis Sanouman demander une loi contre l'excision qui n'existe donc toujours pas au Mali. Cela veut dire, David Bachet, que les femmes ne sont pas protégées dans ce pays?
Si, enfin à moitié. Il existe des textes. L'article 3 de la constitution malienne reconnaît le droit à l'intégrité physique et interdit la torture, les traitements inhumains, cruels et dégradants. Or, on peut considérer que l'excision, une mutilation génitale, entre dans ce cadre. Ce qui veut dire qu'en théorie, ceux qui pratiquent l'excision pourraient même être poursuivis. Le Mali a aussi adhéré à la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'est une déclaration adoptée par les Nations Unies en 1993, il y a plus de 20 ans. Mais le Code de la famille, qui est entré en vigueur en 2012, par exemple, ne dit pas un mot de la question de l'excision. Au contraire, il a consacré un recul des droits et de la protection des femmes. Donc, en pratique, l'excision bénéficie toujours d'une large tolérance au Mali. Elle est combattue, certes, mais elle n'est toujours pas interdite.
Et David, un mot pour conclure, où en sont les avancées de la lutte contre l'excision au Mali ?
Eh bien, on peut dire que des progrès ont été réalisés ces dernières années, même si le chemin à parcourir est encore très long. Déjà, le sujet n'est plus tabou, on peut en parler, même s'il est souvent difficile de se faire entendre, ce qui laisse une marge de manœuvre pour la prévention et pour la sensibilisation, mais aussi pour les soins médicaux. On peut signaler également que plus de 400 villages ont officiellement rejeté la pratique, c'est-à-dire que les autorités traditionnelles de ces villages ont fait des déclarations publiques d'abandon. Alors, il est évidemment très difficile de contrôler, de s'assurer qu'il n'y a plus du tout d'excision dans ces villages. En fait, on sait même que ce n'est pas le cas à 100%. Mais c'est un progrès qui contribue quand même à faire évoluer les mentalités.
Et vous nous tiendrez au courant d'ailleurs de ces avancées. Merci David Bachet pour ce reportage au Mali. Une émission réalisée par Didier Bleu. Au revoir à tous et à demain.